Bonjour Soizic, alors aujourd'hui on va parler des externalités positives de nos commerces.
Et bonjour Marie. Eh oui, aujourd'hui, je vais vous parler d'une notion économique primordiale pour les économistes, à savoir les externalités. C'est un drôle de mot parce qu'il est traduit de l'américain, parce que beaucoup d'économistes mainstream sont américains. Alors, la définition d'une externalité, c'est deux critères. Le premier, c'est qu'il s'agit d'une conséquence non voulue d'une activité de production par un agent économique, que ce soit une entreprise, un ménage ou un État. Le second critère, c'est que le coût de ces conséquences ne doit pas être incorporé, comme on dit, compris dans le prix de vente. Alors, c'est ainsi que l'on parle souvent des externalités négatives. Par exemple, les algues vertes, sur lesquelles j'avais fait ma première chronique, sont une externalité négative des producteurs de porc. En effet, les producteurs de porc n'ont pas comme objectif final de polluer les nappes phréatiques ni de développer les algues vertes sur les plages bretonnes, évidemment. Les algues vertes sont donc un effet induit non désiré. Deuxième caractéristique, le coût du traitement de ces algues vertes n'est pas incorporé dans le prix. Marie, vous ne payez pas le prix de la dépollution quand vous achetez du jambon ou un filet mignon. Alors, les deux conditions étant réunies, on parle donc d'externalités. Et comme elles sont souvent nuisibles, on parle souvent des externalités négatives. Mais les externalités peuvent également être positives. C'est-à-dire que c'est la même chose, mais pour des conséquences favorables à qui n'a rien demandé. Ainsi, par exemple, l'éclairage public éclairant votre jardin vous permet de bénéficier de cette luminosité gratuitement, sans que vous ayez à payer spécialement pour ce lampadaire.
Mais alors pourquoi ce détour théorique? Quel rapport avec nos commerçants?
Eh bien, ce détour théorique me semble important pour comprendre l'idée tout à fait pertinente évoquée par Esther Duflo la semaine dernière, Esther Duflo, prix Nobel d'économie 2019. À la question qu'on lui posait de savoir quelles pourraient être les modalités d'action du gouvernement en faveur des commerçants, j'y arrive, obligés de fermer boutique depuis bientôt 4 semaines, elle répondait sans coup faire rire, des subventions massives et non des prêts. Ce qui, vous en conviendrez, est une nuance de poids.
Mais pourquoi l'État favoriserait-il les commerçants en leur octroyant des subventions sans remboursement alors qu'il ne fait que prêter aux entreprises?
Eh bien, justement, parce que les commerçants du centre-ville, sans le savoir, ne font pas que produire des services. Ils génèrent également nos fameuses externalités positives. En effet, un centre-ville commerçant crée une dynamique dans l'espace public, un bien-être pour les individus, voire du lien social pour qui va dans les commerces, les bars ou les restaurants. Bref, l'effet agrégé de tous les commerces est bien supérieur à leur simple addition. Les centres-villes ou les centres-bourgs, voire les cœurs de ville, forment in fine, comme disent les économistes, un bien public commun à tous qu'il faut absolument préserver. C'est pour cela que la fermeture des commerces doit être ramenée à une durée minimum et leur soutien économique assuré au maximum. On a beaucoup parlé du problème des librairies, mais il ne faudrait pas que l'arbre cache la forêt. Certes, la culture est importante et les librairies distribuent effectivement des biens essentiels. On est tous d'accord là-dessus. Mais ne tombons pas dans la condescendance sociale en estimant que seuls les libraires sont essentiels à la vie sociale. D'abord, parce que ce serait mépriser les autres commerces et commerçants, et également parce que c'est l'ensemble de tous les commerces qui créent la vie des centres-villes. Ce n'est donc pas seulement en tant qu'entreprise privée que les commerces doivent être soutenus par le gouvernement, mais c'est aussi en tant que producteurs d'un bien commun, en tant qu'ils sont nécessaires à la cohésion sociale et à la qualité de l'espace public. C'est donc également à partir de ce point de vue social et non seulement économique que le gouvernement doit envisager le plan de sauvetage des commerces.
Et quelle solution faut-il alors envisager?
Eh bien, l'objectif, c'est qu'il ne passe pas par la case faillite, parce qu'il est bien plus difficile de commencer une affaire que de la poursuivre. Mieux vaudrait alors s'orienter vers des subventions, des remises de loyer ou l'équation terrible du zéro chiffre d'affaires malheureux et au zéro prélèvement obligatoire. Quoi qu'il en soit, de toute façon, la réouverture annoncée pour samedi par Emmanuel Macron hier soir est la moindre des choses. Le premier confinement, Marie, avait déjà conduit à une diminution de 30% du chiffre d'affaires pour beaucoup de nos commerçants et Noël peut représenter jusqu'à 40% du chiffre d'affaires, pardon, pour un très grand nombre. Alors pour conclure, je rappelle encore une fois que la définition de la santé de l'OMS ne se limite pas à l'absence de maladie, mais cette définition prend également en considération le bien-être psychique et social de l'individu. Les commerces des centres-villes contribuent à ce bien-être social et psychique. Ils contribuent donc à notre santé. Le gouvernement ne doit pas l'oublier.
Merci Soizic. Et donc, cette chronique est à réécouter comme toutes les autres sur notre site internet l'autreradio.fr.